Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville.
Merci à toutes et à tous, merci d'être connectés sur cette nouvelle collection que nous inaugurons aujourd'hui, Explorations urbaines. J'allais dire, tout est dans le titre. Voilà, tout est dans le titre, dans Exploration urbaine. Il y a toute l'urbanité sous-jacente sur laquelle on va explorer pendant cette collection. On est avec vous jusqu'à décembre prochain. Oui, tous les mois, nous proposerons un contenu qui va durer une bonne quarantaine de minutes avec des thématiques sur lesquelles on va essayer de vous donner des clés de lisibilité, des clés de compréhension autour ces explorations urbaines. On va commencer avec des thématiques. Aujourd'hui, je vous propose de commencer cette thématique par l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est un peu la dent creuse en ce moment, le moins qu'on puisse dire. Donc l'idée, c'est aussi, sans concession, de n'éluder aucune question, aucun débat, et de poser clairement les choses avec un postulat de base quand même, qui s'appelle résilience, bienveillance, parce que l'idée, c'est que nous construisions au sens propre comme au sens figuré. Pour en parler, nous avons souhaité réunir des invités, puisque cette collection, elle a été coproduite et elle sera d'ailleurs co-animée par un promoteur immobilier, j'allais dire, versus nouvelle génération. En tout cas, une personne qui a bien compris que l'urbanité revêt des sens bien plus profonds que ceux qu'on peut imaginer. Il est d'ailleurs présent sur le plateau, il est le cofondateur d'Idéal Group, il en est le président, c'est Pierre Vital.
Bonjour Sylvain, donc merci pour démarrer cette collection avec nous. La volonté effectivement c'est d'être positionné comme non pas un promoteur mais plutôt un développeur d'immobilier parce que la thématique du promoteur sont bien plus larges que celles qu'on a pu connaître dans le passé. Et donc notre ambition c'est de faire intervenir des experts sur des thématiques comme on le disait tout à l'heure qui sont des thématiques d'actualité qui vont concerner l'écologie, le développement durable, le pouvoir d'achat, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui le logement plus désirable. Donc c'est un sujet évidemment qui nous tient fortement à cœur. Et effectivement, sur Idéal Group, on est un acteur du territoire présent sur 6 régions. Et notre vocation, c'est d'être durablement inscrit dans les politiques du territoire. Donc il faut qu'elles soient bien établies.
Moi, je suis ravi que vous ayez ce type de discours parce qu'on ne l'entend pas beaucoup. Et vous incarnez, Pierre, si je peux me permettre aussi, j'allais dire, une génération de promoteurs qui a pris à cœur l'action sociale et sociétale sans s'opposer forcément à un critère économique, car sans économie rentable ou profitable, il ne peut y avoir d'équilibre. Par contre, on peut parler sobriété, frugalité, ça c'est un sujet aussi extrêmement intéressant. Cette collection, on vous reverra, puisque vous jouerez le rôle de l'expert et de l'éditorialiste, et ça me plaît beaucoup, vous assumiez cette fonction. Je rappelle aussi en complément, si vous permettez, que vous êtes aussi le président de la Fédération des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine.
Tout à fait. Alors, la Fédération des promoteurs Nouvelle-Aquitaine, c'est une fédération forte. C'est la deuxième fédération de province après l'Île-de-France et aux côtés de Lyon. Donc c'est un territoire très large qui couvre des Charentes-Maritimes jusqu'au sud-Aquitaine avec des problématiques qui sont des problématiques très variées, des problématiques de secteurs très urbains, de secteurs côtiers, de secteurs détendus. Donc on est confronté à tout ce qu'on peut voir sur l'ensemble du territoire.
Alors merci en tout cas d'avoir participé et créer cette production. Je rappelle bien, c'est une coproduction thématique. Les professionnels sur le secteur, bien évidemment, sont nombreux. On a des personnes qui sont aujourd'hui réputées pour leur vision de l'architecture, de l'urbanisme. Et j'ai le plaisir, et je ne bouderai pas mon plaisir, de recevoir, c'est une première sur le plateau, Anouk Legendre. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ravi d'être là. Merci pour cette invitation.
Voilà, l'agence XTU.
Voilà, donc XTU, vous nous connaissez sûrement par le pavillon de France à Milan ou la Cité du Vin à Bordeaux, qui est devenue une sorte d'icône de la ville en rapport avec le vin. Mais peu de gens savent qu'on travaille aussi et surtout sur l'écologie et depuis 10 ans, comme on avait travaillé en Asie. En Corée du Sud notamment, on a découvert là-bas les villes asiatiques si gigantesques et tentaculaires que ils n'avaient plus de terres agricoles pratiquement. Et on s'est dit, si c'est ça l'avenir du monde, il est urgent de trouver des solutions écologiques contre le réchauffement climatique pour préserver les terres agricoles, pour limiter l'extension des villes. Et voilà, donc on a développé un laboratoire de recherche à l'agence pour chercher des solutions pour faire revenir la nature dans la ville et la rendre plus aimable, pour déminéraliser, pour trouver des nouvelles solutions contre la chaleur urbaine. Et là, on vient d'ouvrir aussi une branche conseil en transition écologique pour faire profiter d'autres métiers, les industriels, les villes, les territoires de cette approche.
Merci beaucoup d'être avec nous pour ce débat. Il est connu, reconnu dans le métier. On le dit jamais assez souvent, mais l'aménagement, c'est aussi des aménageurs privés. Et pour cause, il est le président de l'Union nationale des aménageurs. Il est basé à Toulouse, mais il rayonne partout sur le territoire. François Ariosek est avec nous. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. L'idée de faire une première émission... Aménagement du territoire, un défi urbain, c'est vraiment un défi. Hein,
oui, c'est... écoutez, l'aménagement a été au cœur des préoccupations des gouvernements dans les années d'après-guerre jusqu'aux années 70. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a eu l'impression que la France était aménagée et qu'il fallait maintenant refaire à l'identique ou sur la ville sur la ville sans vision forcément et je trouve intéressant cette période que nous vivons qui repose à nouveau toutes les questions de fond.
Et c'est bien le sujet d'ailleurs des questions de fond. Merci François de me faire cette transition. Il a cette réputation dans le métier. Il est avec nous en duplex. Même s'il est sous les orages, il est protégé par une très jolie maison. Il est le philosophe de l'urbain. Il est aujourd'hui l'auteur d'une œuvre considérable. Et pour cause, j'ai mis 2 ans à le retrouver puisque Thierry n'a pas de portable, de téléphone portable. Il est philosophe de l'urbain. Il a été professeur à l'école d'architecture. Il a une œuvre monumentale. Je vous conseille un livre qui est très intéressant. C'est sur la sieste, notamment, qui nous en parle tout à l'heure. En tout cas, il a une vraie vision intéressante et il a le mérite, Thierry Paco, de poser les questions qui parfois, on va dire, sont parfois éludées dans le débat. Et je pense que la vitalité d'une bonne démocratie, c'est justement de ne pas vouloir éluder les questions, même si parfois il y a des sujets qui font un peu grincer. Et je pense que c'est sain de créer cette émulation. Il est avec nous en duplex. Bonjour Thierry Paco.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Oui, en effet, donc déjà, par rapport à ce que j'ai entendu, je me positionne un peu différemment puisque je n'utilise plus depuis longtemps le terme d'aménagement, dont j'ai fait l'historique puisque je suis aussi lexicographe chez Larousse, et je préfère le terme ménagement que j'ai proposé en 1990, oui, ça ne nous rajeunit pas, pour montrer à quel point le ménagement, qui vient d'un vieux verbe français, manoir, enfin bon, je parlerai de ça si Sylvain me donne l'autorisation plus tard. Voilà, donc je crois beaucoup au sens des mots, et du coup, je crois que le mot territoire qui a été prononcé par tout le monde ce matin mérite notre attention, car un territoire n'est pas donné par un découpage administratif, comme les 13 régions actuelles de notre pays, mais résulte d'un acte d'amour entre une population et un site. C'est pour ça que je travaille beaucoup depuis des années sur ce que j'appelle l'espérance biorégionale, parce qu'un être humain n'habite pas un logement. Il habite un habitat, et l'habitat, ce n'est pas simplement l'appartement ou les mètres carrés de son pavillon, mais c'est tous les chemins qui y mènent, et c'est tous les à côté. Et donc, penser le logement de demain, c'est vraisemblablement réfléchir sur la notion d'habitabilité, qui échappe pour l'instant à toutes les réflexions des promoteurs
merci, et des architectes. Merci beaucoup, ça augure, je suis ravi. Je brûle l'impatience d'entrer dans ce débat pour cette première séquence, tout de suite après ça.
Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville.
Voilà, c'est parti pour ce débat avec une belle introduction. Pierre, pouvons-nous commencer par un préambule, si vous voulez bien ? Vous avez souhaité, Pierre, quand on a construit notre comité éditorial avec vos équipes et les nôtres, dire, de prendre un postulat, nous allons aussi donner du sens dans ce que nous faisons et créer du contenu. Pourquoi vous avez choisi le mot exploration urbaine? Et permettez-moi de vous demander aussi de contextualiser aussi la volonté que vous avez, vous, en tant que promoteur, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a une réponse à faire à Thierry Paco, par rapport au choix qu'ont fait les promoteurs pour développer cette collection. Et c'est tout à fait inédit, puisque vous êtes le premier promoteur français à inaugurer ce type de collection en radio-télé.
Bah d'abord, on est très content d'être les premiers. On a souvent tendance à dire qu'on est explorateur, donc qu'on est positionné comme un acteur explorateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est une entreprise comme nous, une entreprise indépendante, une entreprise jeune, on est obligé de se différencier par un engagement fort de la part donc, des collaborateurs et un engagement aussi de ne pas faire forcément comme on faisait dans le passé. Donc nous, le postulat de base, quand on a créé, fondé avec mon associé Edouard Mignon, Idéal Group, c'était donc de créer, l'idéal, c'est finalement le bon produit. produit au bon endroit. Ce n'est pas la perfection, mais c'est le bon produit au bon endroit pour le bon client dans le bon territoire. Donc c'était important pour nous de se positionner en se disant que chaque projet immobilier doit être un projet réfléchi. Et il ne doit pas être réfléchi simplement à l'échelle de la parcelle, mais comme on le disait tout à l'heure et comme le disait M. Paco tout à l'heure, à l'échelle de son environnement global. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va habiter un quartier, ça veut dire qu'un projet il doit être désiré à l'échelle du quartier, et qu'il ne faut pas opposer un projet individualiste, individuel, de la part d'un promoteur, avec finalement un projet de quartier. Donc notre position, dès le départ, a été cette position d'être l'acteur qui accompagne avec des solutions immobilières qui soient les plus pertinentes possibles. Dans ce démarrage-là, dans cette approche-là, on travaille sur des grandes thématiques, évidemment beaucoup sur le logement, mais le logement dans sa pleine diversité. Donc c'est important d'être acteur des territoires, de bien comprendre quelles sont les mécaniques qui se passent en fonction des territoires et être capable d'apporter des solutions variées aussi sur le logement. On ne doit pas se contenter de faire aujourd'hui du logement collectif vendu à la découpe pour de l'investisseur Pinel. Ça, c'est un stéréotype qui n'existe plus dans notre profession. Et nous, on en a pris le parti très tôt en travaillant sur du logement abordable, avant même que la notion de logement abordable existe. Dès 2011-2012, sur certaines communes comme Bègles, on a pu faire du logement très accessible, avec de la vraie évolutivité. Donc c'est explorer de nouvelles façons de faire. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, avec cette approche-là, on avait une meilleure appréciation des projets. Ils étaient mieux acceptés par le politique, par les riverains. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est une tension très forte qui existe entre l'acte de construire et finalement le tissu établi, que ce soit les collectivités ou les particuliers. Donc c'est important pour nous d'être un acteur qui se pose les bonnes questions, qui se repose les questions qui paraissent parfois évidentes, mais en se les reposant, on se rend compte qu'il y a des solutions différentes qu'on peut apporter. C'est ça un peu l'exploration urbaine, et d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on aborde tous nos projets, aussi bien sur l'acte de construire que sur le service, que sur l'accompagnement client.
Alors je vais vous poser cette question, puisque fatalement, il fallait vous la poser. On a toujours trop souvent cette image, peut-être un peu éculée, stéréotypée, du promoteur qui est là pour construire, vendre, et puis je vais ailleurs. Mmh. Aujourd'hui, vous souhaitez, vous le dites, au-delà du discours de com ou de marketing, vous allez bien plus profond. Concrètement, je vous pose cette question, comme ça elle sera posée définitivement pour cette collection. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des promoteurs comme vous qui suivent et qui vous emboîtent le pas ?
Alors je pense que notre approche de répondre à un besoin du territoire, je pense que tous les acteurs, tous les professionnels doivent se poser la question. Hein. On ne peut pas se dire qu'aujourd'hui on construit à contre-courant, donc on est quand même dans une tendance générale. Par contre, être un acteur qui peut faire le grand écart entre un projet qui va être positionné sur une aspérité senior handicapé, on travaille actuellement sur un concept avec un opérateur qui fait de l'exploitation de ce type-là, versus à contrario faire du logement étudiant en démembrement pour apporter une solution de logement abordable pour les étudiants, être capable de faire ces grands écarts-là sur des échelles de projets qui vont de 15-20 logements à 150 logements, je pense qu'on doit être à peu près les seuls, ou en tout cas avoir cette agilité là, à peu près les seuls. Il n'empêche qu'il faut quand même avoir cette flexibilité-là tout en conservant de l'économie de projet. Donc ça, c'est quand même un préalable. Il faut quand même dire qu'on est un acteur privé qui doit sortir une efficacité opérationnelle, une efficacité économique. Et aujourd'hui, nous, on arrive à le faire. Donc si on arrive à le faire, j'espère que d'autres nous enverront le pas.
Ce qui démontre que votre modèle fonctionne.
Notre modèle fonctionne et il fonctionne économiquement.
Vous n'hésitez pas, Pierre, parfois à dire oui, peut-être que dans une certaine époque, où il y a des acteurs, des promoteurs, qui était plus adapté au monde contemporain, on peut le dire, ça aussi.
Alors, l'acteur qui est
monoproduit,
qui est que sur un positionnement, qui ne sait faire qu'un mode de distribution, par exemple, donc de vente, en disant je fais que de la vente par plateforme de réseau et des choses comme ça, je pense que cet acteur-là n'existe pas ou n'existera plus. Et il n'existera plus pour plein de raisons. Les attentes des clients ne sont plus les mêmes, les attentes des collectivités ne sont plus les mêmes, les opérations qu'on réalise ne sont plus monolithiques, on est vraiment sur du protéiforme, il faut avoir plusieurs usages au sein du bâtiment, il faut avoir plus de services, il faut voir comment évolue aussi la tendance d'utilisation de son logement. Et sur tous ces thèmes-là, effectivement, on ne peut pas être durable dans une production monolithique. Donc je pense que les acteurs que vous décrivez, pour moi, vont disparaître ou vont fortement réduire la voilure. Les acteurs comme nous, qui sont très polyvalents, sont des acteurs qui, du coup, chaque jour, peut tester des nouvelles choses et en testant des nouvelles choses, peut, pourquoi pas, aussi développer de nouveaux marchés qu'on n'avait même pas anticipé il y a 2 ans. Le sujet, par exemple, des immeubles seniors nouvelle génération, avec, on va dire, malheureusement, le fiasco qu'on vit actuellement sur les EHPAD, on peut se dire qu'il y a de nouveaux modes qui vont arriver, de nouveaux modes d'exploitation qui vont arriver. nous, on ne sera jamais l'acteur qui fait
le co-living est aussi un mode d'exploitation.
Le co-living est un mode d'exploitation.
Sur les modes d'habiter.
Et je pense que c'est important de se dire, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas stéréotyper. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du logement senior et du logement étudiant. Il faut parler dans l'ensemble du territoire de logement au sens large et au sens pluriel, de logement senior et de logement étudiant. Il y a des co-livers qui font des choses très différentes les uns des autres. Sur le senior, c'est pareil. Donc nous, on est là pour capter les signaux faibles sur ces sujets-là, qui sont des sujets très, très motivants parce qu'ils répondent à une vraie problématique. Et donc du coup, il faut qu'on capte les acteurs qui se mettent sur le marché, qu'on soit capable de les accompagner dans leur développement. Je parlais tout à l'heure de développeurs d'immobilier. On est là pour développer des solutions immobilières qui, du coup, sur l'ensemble du territoire, auront une pertinence, parfois durablement, parfois ponctuellement, parce qu'il y a un besoin très ponctuel. Donc, c'est à cette demande-là qu'on répond. Et c'est en ça qu'on est, je pense, différent. On est, comme disent un peu les Anglais, on est des développeurs, au sens développer des projets. Et après, on n'est pas dans, on n'y a pas le constructeur. Nous, on est vraiment une plateforme immobilière qui vient consolider un savoir-faire large, complet et qui répond à tout ça.
Moi, quand je vous entends, je vois quelqu'un qui fait quelque part de qui est un ensemblier urbain avec aucune chapelle finalement, puisque vous êtes encore une fois, vous êtes multipolaire sur la façon de mixer les usages et à la fois les modes de fonctionnement. Le débat est lancé justement là-dessus. François Ariosek, vous êtes un aménageur privé. On n'en parle pas souvent, mais il y a des aménageurs privés dans ce pays. Vous êtes combien d'ailleurs?
Écoutez, nous sommes 300 aménageurs répartis sur tout le territoire et dans les différentes régions. Nos sociétés ont été, je dirais historiquement, plutôt dans les grandes métropoles et autour des métropoles, puisque depuis un certain nombre d'années, ce sont les métropoles qui ont été leaders des développements urbains. Et les cœurs de métropole représentent 10 millions d'habitants sur nos 67. C'est-à-dire que l'essentiel des croissances urbaines se sont faites autour des métropoles et dans une différenciation des territoires qui ont évolué. C'est-à-dire que l'essentiel de la croissance s'est faite non pas dans les villes-centres, mais, si vous voulez, dans des petites villes qui sont devenues des villes moyennes et qui ont développé la totalité des services urbains et que nous avons accompagnés. Et depuis une vingtaine d'années, depuis la loi SRU, si vous voulez, on a intégré les différentes typologies d'habitat, les mixités sociales, les mixités générationnelles, etc. Si vous voulez. On est parti, je pense, d'une segmentation, hein, comme disait Pierre Vital, qui est tout à fait judicieuse, à intégrer des différences de génération, de population et un parcours résidentiel plus complexe. Ce qui permet d'avoir des modèles urbains différenciés. Et aujourd'hui, je dirais que la prise de conscience environnementale que nous partageons, climat, énergie, etc., si vous voulez, nous oblige à intégrer des nouvelles fonctions dans nos projets pour passer de l'aménagement du territoire à des projet d'aménagement de ville, un projet de territoire et qui soit des réponses aux inquiétudes que partagent nos concitoyens sur l'évolution du climat, l'évolution de la société, etc. Donc il faut que nos projets intègrent...
Vous aussi, vous êtes sorti un petit peu de votre zone habituelle pour intégrer d'autres paramètres.
Absolument. Je dirais, ça a été l'évolution aussi d'une part de la réglementation, de la relation, on va en parler, de la relation que nous avons avec les réglementations et puis avec les politiques qui sont toujours commanditaires de nos opérations. Mais aussi parce que nos clients, nos opérations ont intégré cette évolution ou ces évolutions des demandes. Et aujourd'hui, on passe d'un apport de services logement avec des typologies variées qui correspondent aux différentes typologies sociales, sociologiques, si vous voulez, à des intégrations de réponses environnementales, climatiques. Comment peut-on intégrer des mixités avec de la voiture en autopartage, de l'intégration de solaire, de comment économiser le carbone, etc. Voilà. On est dans une approche, je dirais, beaucoup plus complexe parce que d'un côté, on a l'attente du client, de l'autre côté, on a aussi une attente des élus locaux par rapport à leur territoire. Une opération doit pouvoir répondre à son environnement qui l'accueille, c'est-à-dire à un quartier, voire à une petite ville, c'est-à-dire que l'opération va être structurante pour ce qui l'entoure.
Alors justement, la vision de l'architecture, elle aussi, a évolué en fonction d'un monde contemporain qui se veut sobre, frugal. Est-ce que les architectes, eux aussi, ont fait leur mue en fonction de ces éléments-là? On n'a pas toujours l'impression. Anouk Legendre.
Alors, ça a évolué quand même, et ça va évoluer encore plus. Ça va évoluer aussi parce que le temps change, les gens changent. On avait jusqu'alors beaucoup travaillé finalement sur les grandes axes autour des villes, etc. Et peut-être que demain, ça va être différent. Peut-être que demain, la question du bas carbone et tout ça, la remise en cause des transports faciles et puis les conséquences du Covid aussi vont faire que peut-être les populations vont plus vouloir vivre comme ça, vont plus vouloir vivre dans les grands centres-villes.
C'est déjà le cas un peu aujourd'hui.
C'est un peu un mouvement, enfin nous autour de nous on voit ça partout, les gens qui partent. Ils ont réfléchi à la question du travail.
Est-ce qu'ils qu'on vont peut parler d'exode urbain? Non.
Ben, je pense que oui.
Quand même. Vous pensez qu'on est dans une...
Je pense que chez les jeunes générations, il y a un peu un refus quand même des conditions des parents. Enfin, qu'ont vécu les parents et qu'ils ont vécu enfant, en fait. Et il y a une remise en cause des conditions de travail, de la façon de travailler, de l'objectif même. Et la revendication de meilleure qualité de vie. Et tous les gens qui ont vécu l'enfermement du Covid, ils veulent plus revivre ça. Il y en a qui ont été seuls, il y en a qui ont été enfermés, qui ont besoin... Enfin, il y a une revendication de l'air, de l'espace, d'un rapport différent au territoire. Et ça, en fait, les architectes s'en emparent déjà, mais ils vont s'en emparer encore plus, parce que peut-être... Le lieu des projets va peut-être changer. Peut-être qu'on ne va plus être dans les grands centres-villes, dans les grandes axes, parce que peut-être qu'aussi, vu la disponibilité foncière qui est quand même assez réduite, il y aura aussi moins de projets là. On voit déjà que les promoteurs commencent à s'intéresser eux-mêmes aux villes moyennes, aux petites villes, etc. Et
c'est un peu la revanche hein, des villes moyennes, si on peut dire les choses comme ça.
C'est bien aussi, parce
avec des courbes démographiques qui sont incroyablement inversées.
Il y a un mouvement quand même.
Je prends l'exemple souvent de la ville de Brest, qui perdait des habitants depuis 1975. Depuis 2 ans, on a une courbe démographique incroyable.
Ah, mais la Bretagne est pleine.
Je trouve ça génial.
Il n'y a plus un mètre carré libre en Bretagne, même les petits villages.
Avec les effets délétères qu'on connaît, qui effectivement, du coup, on fait flamber de plus de 20 ou 25%, ou des fois beaucoup plus, des villes où on avait un prix au mètre carré défiant toute concurrence.
Va se poser la question du prix, effectivement, parce que d'abord, il y a une question du prix global, parce que les prix ont beaucoup augmenté sous l'effet du Covid,
de la réfaction des matériaux,
etc., suite à l'arrêt. Enfin, c'est toute une chaîne. Hein.
Bien sûr.
Notre acier, il vient de Chine. À partir du moment où ils ont arrêté de produire en Chine, les prix ont augmenté ici. Il y avait aussi d'autres raisons, mais ça a contribué. Et donc, ça va poser la question de la désindustrialisation française. Et donc, ça va poser la question dans les années à venir de peut-être sa possible réindustrialisation, parce que ça vaudra la peine de se poser la question de notre autonomie. Et peut-être ça sera une deuxième chance aussi pour les villes moyennes et les petites villes.
C'est incroyable comme ce que vous dites fait écho à l'actualité actuelle. C'est fou, hein.
Quand vous
parlez de dépendance, d'énergie, de relocaliser l'industrie, d'être autosuffisant.
On vient de vivre une série de crises quand même qui ont le mérite, je trouve, enfin ça a été dur, mais ça a le mérite de reposer les questions. Ça va en quelque sorte accélérer la transition écologique finalement. Et comme il y a eu quand même la loi résilience, climat résilience, c'est quand même... aussi quelque chose qui questionne les élus, qui questionne les aménageurs. Enfin, on ne peut plus construire comme avant. Et je pense que ça va évoluer. Autant les dernières années, les dernières décennies, tout a été centré vers quelques grandes métropoles. Et donc maintenant, c'est bien pour ces grandes métropoles. Autant les villes moyennes et les petites villes qui étaient isolées, qui ont perdu leurs hôpitaux, qui ont perdu tous leurs équipements au profit des métropoles, bah, peut-être qu'elles vont avoir deuxième chance, peut-être qu'elles vont pouvoir profiter de la réindustrialisation si on arrive à en faire une. Peut-être la question des friches va se poser autrement. Et voilà, peut-être c'est une façon de rééquilibrer la justice et le territoire, parce qu'il faut qu'il y ait des gens partout quand même.
Alors,
on a des territoires abandonnés.
Ce sont effectivement des défis urbains, Thierry Pacot. Alors, bien évidemment, vous avez employé le terme tout à l'heure, donc ça augure tout de suite du débat. Juste pour bien contextualiser, Thierry Pacot, selon vous, qui a la main sur le territoire? Qui devrait avoir la main sur le territoire? Question. Est-ce qu'on a une pensée jacobine qui dit à Paris, on va décider du découpage, comme ça a été avec les grands commissariats au plan qu'on a connus dans les années 60-70, avec un urbanisme triomphant, dont on est arrivé au bout du modèle, qui doit aménager le territoire et réunir aussi les forces en présence? Juste un chiffre, et ça vous le savez déjà ici, c'est que 53% des logements produits sociaux sont faits par des promoteurs privés. Donc, comment intégrer aussi cette verticale du monde des affaires, très clair, sans exclusive, sans jugement de valeur, notamment sur l'économie, la rentabilité, la profitabilité, et créer cette alliance durable pour transformer la ville en tant que telle? Alors, c'est plus un domaine de réflexion, Thierry, hein, c'est moins une question qu'une réflexion que je vous demande. Thierry Pacot.
Ben, bon, comme tu le sais, j'ai toujours une approche rétro-prospective des situations, des sentiments ou des choses comme ça. Alors, il se trouve que le terme exode urbain date de 1903, qui déjà faisait couler beaucoup d'encre. C'est l'époque aussi où on commence à parler du Grand Paris, tout ça est contemporain. C'est aussi le moment où on évoque de développer la nature en ville. Si je dis ça, c'est pour montrer que non pas qu'on est en retard d'un siècle, mais c'est que ces belles idées avaient été proposées et puis ça a été finalement cassé, empêché, gêné, contrarié par deux choses à l'échelle du territoire. La première, c'est l'automobilisation. Donc on ne peut pas réfléchir aux nouveaux quartiers dont parlait tout à l'heure Pierre, avec lequel j'étais tout à fait d'accord, si l'on ne pense pas à la ville pédestre, par exemple. Et donc j'entendais l'autre jour un ministre expliquer que il fallait passer de l'automobile à essence à l'automobile électrique. Non, dans ce cas-là, on aura le même type de développement urbain. Si on veut changer ça, si on veut d'autres reconfigurations, il faut rompre avec l'automobile, qui n'est pas que l'automobile, qui est les lieux où on va l'alimenter. Alors, ce ne sera plus des pompes à essence, ce sera des bornes électriques, les autoroutes. Donc, on voit bien que l'automobilisation a façonné nos villes. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, évidemment, la création des centres commerciaux va permettre de périphériser les anciens centres-bourgs et de créer des nouvelles centralités qui sont à l'extérieur de ces petites villes ou de ces villes moyennes. L'expression « ville moyenne » ne me plaît pas du tout parce que quelque chose de moyen, ce n'est pas top. Enfin, je pense qu'il faut exalter la plus grande exigence de qualité territoriale et donc c'est de faire des villes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est une définition que je suggère, qui est la suivante. Une ville, c'est l'heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Une de ces qualités vient à manquer, l'esprit de la ville s'estompe ou disparaît. C'est le cas actuel. C'est-à-dire que dans mon livre « Désastres urbains », j'explique pourquoi il n'y a plus de villes. Pourquoi même les métropoles, ce ne sont pas des villes. Nous avons des non-villes et des non-campagnes. Alors, le boulot est énorme, évidemment, parce qu'il nous faut pour ça peut-être mettre en place une nouvelle trinité que j'énoncerai ainsi, le cas par cas, le sur-mesure, et le faire avec les habitants, le mot n'a pas été prononcé depuis ce matin, et le vivant, autre mot qui n'a pas été prononcé depuis ce matin. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait nouveau qui nous oblige à écologiser notre esprit, mais aussi à écologiser les lieux de pouvoir. Parce que pour répondre à ta question, qui a fait l'aménagement du territoire? C'est l'État et les technocrates, disons-le franchement comme ça. Et puis ensuite, évidemment, la politique agricole commune qui a façonné nos paysages, etc., etc. Donc on voit bien que si l'on veut décentraliser, et il faut le faire, décentraliser au maximum, il faut du coup réinventer de nouvelles territorialités du politique. Et là, c'est pour ça qu'il y a quelques années, quand le gouvernement socialiste, précisons-le, a réduit le nombre des régions, à tort à mon avis, puis avait un second plan en tête, c'était de réduire le nombre des communes. Hein, et alors, j'avais lu un document à l'époque, on passerait de 35 000 communes à 7 000.
Oui, à 17 000, je crois.
Oui, à 7 000 après.
À 7 000, oui, mais c'est...
Et alors moi, j'ai participé à une émission de radio, j'étais le seul à être pour les 35 000 communes, c'est-à-dire à être complètement d'une autre époque, réactionnaire, etc. Non, l'avenir des mégalopoles, l'avenir c'était... Parce qu'on ne peut pas comprendre, juste ce point, on ne peut pas comprendre la question du logement en France si on n'a pas une vision planétaire. Parce que ce qui se passe... à Tokyo, a des répercussions sur ce qui se passe à Brive-la-Gaillarde. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est comme ça. Donc, on ne peut pas, je viens de sortir un petit livre qui s'appelle « Les bidonvilles », il est forcément planétaire. Il nous faut saisir, justement, à l'échelle mondiale, ce qu'est la quête du logement, ce qu'est l'idée même d'une ville. Exploration urbaine, ça me plaît, parce que c'est, y a le mot « urbain ». Et l'urbain, c'est notre réalité dorénavant. Parce que les villes elles-mêmes sont submergées par l'urbain. Pierre parlait des seigneuriales en disant, voilà, il ne faut pas opposer l'habitat du seigneur avec l'habitat étudiant. Bon, intérieurement, je prenais ça pour moi, parce que je suis un seigneur, mais je suis toujours étudiant. Donc, je suis l'expression même de quelqu'un qui veut avoir l'un et l'autre en même temps. C'est ça la question fondamentale aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué à l'échelle planétaire, et là, je voudrais que les deux promoteurs et que l'architecte aussi se positionnent. On m'a dit que le premier produit, ou un des premiers produits immobiliers, le mot produit avec des guillemets, était la gated community. Alors, si c'est le cas, et je me suis renseigné, ça semble être le cas, donc ce qu'on appelle en français des enclaves résidentielles sécurisées, il y en a de plus en plus, eh bien, ce sont des négations même de l'esprit de la ville.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça pointe aussi le rôle des parties prenantes. Et encore une fois, merci, comme je le disais tout à l'heure à François, ça me permet de basculer dans la deuxième partie de notre émission, le rôle des politiques publiques et le rôle de chacun dans la définition du territoire.
Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville.
Thierry Paco l'a posé comme question de fond, et ça mérite réponse. Le rôle des politiques publiques, entre les politiques locales, parfois, on le voit d'ailleurs, François, souvent avec des projets d'aménagement, des contraintes opposées entre le pouvoir de la préfecture, le pouvoir des EPCI, des métropoles. Franchement, c'est une tannée pour un promoteur, hein, je vous le dis, hein, c'est un sacerdoce de vouloir. Cette inflation normative, elle est parfois effrayante. Et d'ailleurs, Thierry, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un pouvoir technocratique. Question, est-ce que dans cet bouleversement de la ville, on réformera aussi cette approche ? Tentation jacobine et renforcement des pouvoirs locaux, c'est bien l'objet du jour. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse répondre à cette question. Il a posé cette question au promoteur, Thierry Paco.
Non, je voulais simplement dire qu'on ne pouvait pas réfléchir aux dynamiques actuelles simplement en étant sur le cas français, qu'il fallait montrer, enfin qu'il fallait absolument prendre en considération des tendances qui traversaient l'ensemble des continents et des professions, et qu'il fallait écologiser notre esprit. Ce que j'ai cru comprendre en entendant François qui disait voilà, on s'améliore, on change, on prend en considération la nature, etc. Bon, et puis Pierre qui disait voilà, il faut rompre avec l'ancien schéma du promoteur qui construit son bâtiment puis qui s'en va. Non, il faut l'intégrer à tout un environnement, etc., etc. Donc tout ça me paraissait très très bien. Mais du coup, je posais la question quand même d'un produit immobilier qui, m'a-t-on dit, était à l'échelle planétaire le plus demandé, la gated community, c'est-à-dire l'enclave résidentielle sécurisée. Et il se trouve que, travaillant sur ce sujet, je me suis aperçu que les promoteurs des gated community aux États-Unis étaient aussi ceux qui ont inventé des quartiers privés pour personnes âgées. En particulier Sun City, que j'avais été visiter dans l'Arizona. Donc, je voulais poser cette question. D'un côté, il y a des bonnes intentions que j'ai entendues et qui m'ont ravi, mais je crains que ce ne soit pas du tout généralisé. De la même manière, en ce qui concerne l'architecture, ce qui domine encore aujourd'hui à l'échelle planétaire, c'est la construction en béton. Alors, quand on sait qu'une tonne de béton génère une tonne de CO2, on dit il est temps de passer. Alors maintenant, c'est dans les discours. Matériaux géosourcés, matériaux.
Mais aussi béton bas carbone. Il y a des formules aujourd'hui.
Qui commence à arriver.
On sait faire du béton aujourd'hui avec la récupération, notamment les granulats et des formules.
Dans la ville de Paris, aujourd'hui, il y a quand même le projet de construire 6 gratte-ciel à Bercy, ce qui est environnemental et écologique. Déraisonnable.
Alors justement, et tu disais tout à l'heure, je rajoute juste que tu disais ces gated communities, c'est-à-dire ces enclaves sécurisées, sont la négation même de la ville. Voilà, Pierre Vital, réponse.
Alors d'abord, effectivement, je pense qu'il faut comprendre quelles sont les mécaniques qui nous amènent, nous, à intervenir sur les territoires et quelle est notre aussi zone de latitude et de liberté. On est quand même, comme le disait Sylvain, dans un territoire où finalement les contraintes arrivent de toutes parts. Le volet écologique...
Et elles s'opposent.
Donc la finalité première pour nous, c'est de produire le bon logement ou le bon produit au bon endroit. Et en ce qui concerne donc sur la diversité des produits, on a quand même y a un formalisme français qui fait qu'à chaque opération, et de plus en plus sur des petites opérations, on est amené à travailler la diversité. Parce que c'est le PLU qui le prévoit. On prévoit donc dans les règles d'urbanisme un pourcentage de logements sociaux. On se retrouve dans des situations, dans notre région, Nouvelle-Aquitaine, à partir de 800 m², dans le sud-Aquitaine, dans les Landes et dans le Pays Basque, à produire du logement social pour 35%. Donc la mixité... au sens à qui je cible le loyer modéré, à qui je cible le logement libre, en fait, il est déjà prévu, préfléché directement dans les règles d'urbanisme. Ça, c'est ce qui est voté à l'échelle locale et c'est ce qui est voté à l'échelle des élus pour atteindre des trajectoires de loi SRU, entre autres. Il y a d'autres contraintes aujourd'hui qui viennent également se rajouter et je pense qu'il faut, le prendre en compte parce que ça va avoir des incidences assez fortes sur l'aménagement du territoire à l'avenir. C'est le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette, qui est une trajectoire contraignante qui vise donc le zéro artificialisation à 2050. Donc on voit aussi que dans ce grand thème-là, là pour le coup, c'est plus une directive nationale, européenne qui nous impose ça. Et donc là, on vient effectivement opposer le désir de construire localement et en particulier, comme vous le disiez tout à l'heure, produire du logement social. 53% des logements sociaux sont faits en France par le privé. Donc cette nécessité absolue de produire du logement social, mais en contrepartie, où est-ce qu'on va les faire ? Et quand on dit où est-ce qu'on va les faire, avec le ZAN, on se rend compte que ben, les terrains qui étaient jusqu'à présent des terrains pas urbanisés sont des terrains qui vont être de plus en plus difficiles à urbaniser. Et même s'il y a des adaptations en cours sur le ZAN et sur la prise en considération de qu'est-ce qui est artificialisé ou pas, c'est quand même une sacrée contrainte. Et quand on dit le ZAN, finalement, l'avenir, ça va être aussi de travailler sur des territoires pour faire de la réhabilitation. Nous, on l'entend d'un point de vue idéologique. Par contre, il y a problème, c'est une réalité économique. Et quand on travaille sur la filière de la réhabilitation, on se rend compte que les coûts de réadaptation des bâtiments sont très lourds, que du coup, on est parfois à produire du logement en coût de construction plus cher que quand on le produit dans le cadre du neuf. Donc, l'aménagement du territoire ne peut pas passer que par ce biais-là. Donc, je pense qu'effectivement, on est dans un momentum où on prend les contraintes parce qu'il y a des nécessités à tous les niveaux. Faire du logement social, éviter l'artificialisation des sols, travailler sur de la construction bas carbone. Mais on ne s'est pas doté de tous les moyens pour y arriver. Et dans tous les moyens, on pourra en parler tout à l'heure, mais dans tous les moyens, il y a aussi parfois la disponibilité de l'outil de production à l'échelle locale pour faire du bas carbone, travailler sur du biosourcé. Mais l'industrie n'est pas là, elle n'est pas prête. Et elle produit, quand elle est là, soit pas au bon volume, et on se retrouve parfois avec des filières qui ne sont pas organisées, qui ne permettent pas de produire en bois, en chanvre. Donc on est vraiment en grande difficulté. Et à côté de ça, ce souhait très fort des élus de pousser plus fort que la loi. Donc nous, on a le cas, le bâtiment frugal bordelais est une charte qui impose de travailler en biosourcé.
Et d'ailleurs, vous avez... nous étions ensemble, vous et moi, dans le centre de Bordeaux où Pierre Urmic est intervenu. D'ailleurs, vous étiez présent à cette émission avec nos confrères du Figaro. Et moi, je salue votre action puisque vous avez réussi à embarquer avec vous quand même. Oui. Sur la signature de cette charte, tout le monde n'a pas signé en Nouvelle-Aquitaine, mais vous en avez embarqué une bonne soixantaine, me semble-t-il, parce que quand on lit le texte de cette charte pour la frugalité et la sobriété française, on est promoteur, on se dit, bon, ok, contrainte supplémentaire, prix de sortie qu'il va falloir calculer, parce qu'une chose qu'on oublie trop souvent, c'est que vous avez des élus qui vous imposent des prix de sortie, c'est-à-dire des prix au-dessus duquel vous ne pouvez pas aller. Et en même temps, vous avez une hausse des matières premières, vous avez des contraintes là-dessus, c'est pas évident. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites justement le bilan de cette signature de charte, vous estimez que vous avez fait le bon choix?
Alors
ou est-ce que vous n'avez pas le choix?
En tant que président de fédération, on se doit d'être dans un rapport de discussion avec les élus. Et ce thème-là, qui était un thème fort, donc de travail.
De discussion, mais pas de soumission.
Mais pas de soumission, donc voilà. De discussion, parce que dans le passé, on a pu effectivement être à côté de la discussion. Et donc, c'était important pour nous d'avoir une visibilité sur l'envie, le désir de produire sur la ville de Bordeaux. Ça concerne vraiment la ville de Bordeaux. C'est très spécifique. Donc, on voulait être accompagné dans, c'est quoi la feuille de route de la municipalité. On sait qu'on ne pourra pas aller à contre-pied d'une décision politique. Donc, on s'est dit, on va s'associer à la démarche, mais avec des contreparties. L'aménagement du territoire, c'est une envie de produire du logement localement, des équipements, de produire dans le bon sens et le bon ordre. Donc, produire du logement, s'il n'y a pas les équipements et les transports, ça n'a pas de sens.
Ah, c'est clair.
Et à contrario, s'il n'y a pas les services, on ne va pas les faire des zones résidentielles, des ghettos résidentiels sans service, sinon c'est plus désirable. Donc, il faut s'inscrire dans ce rapport de transparence sur la volonté. On a obtenu de la part de la mairie de Bordeaux une vision assez claire sur quelle était leur volonté en termes de quantitatif, en termes de zones de production. Et aussi, le deuxième élément qui est clé aujourd'hui dans l'aménagement du territoire, c'est que c'est plus difficile de produire, mais c'est également plus long. C'est plus long parce que l'échange avec la collectivité pour définir le bon produit peut prendre parfois un an et demi, et on est contraint à ne déposer que quand on a validé tout un process de pré-instruction qui est très long. Donc dans notre échange qu'on a pu avoir localement, c'était de mettre en place une ambition d'efficacité sur l'instruction des permis, enfin des pré-instructions de permis, mais également sur les instructions de permis. Aujourd'hui, on en est en phase de concrétisation puisqu'on constate l'atterrissage et l'efficacité du dispositif. Il y a de l'amélioration à faire et la mairie en est d'accord et elle en a conscience. On n'aurait pas été dans ce dialogue dès le départ, on n'aurait pas pu discuter et mettre en avant le résultat de notre point de vue. Donc là, c'est important d'avoir cet échange-là. Et on s'est inscrit dedans parce que pour nous, c'était une thématique quand même qui était importante. La frugalité, la sobriété, aujourd'hui, sur une ville comme Bordeaux, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, y compris les riverains.
Et c'est un sujet d'ailleurs qui a fait beaucoup couler d'encre, hein, bien évidemment, puisque effectivement, on a même des associations de Bordelais contre les Parisiens ou ceux qui venaient de grandes métropoles qui faisaient flamber les prix. Actuellement, on a les mêmes soucis à Bayonne avec des sujets qui sont des sujets à ne pas prendre à la légère parce qu'on voit que se cristallise autour du mal-logement et des difficultés des Français à trouver un logement digne et décent des problématiques. Donc c'est intéressant de voir cette action. Justement, l'avis de l'architecte justement à la lumière. Et d'ailleurs, Thierry a posé cette question, ces fameuses gated communities qui explose dans le monde. C'est un vrai souhait. Et le souhait, en fait, je résume un peu cette pensée, c'est je me protège du monde extérieur parce que j'ai un peu d'argent, j'ai les moyens de le faire. Je me dote de vigiles, etc. Une espèce d'auto de ville dans la ville complètement, complètement adaptée à la classe sociale. Donc, j'allais dire que c'est presque le comble de la gentrification poussée à son extrême, si je peux m'exprimer ainsi, en entre-soi, entre ceux qui possèdent. Et je me fous quelque part de ce qui se passe à l'extérieur. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et dans la pensée de Thierry, c'est la négation de la ville. L'architecte que vous êtes, c'est quelle est l'analyse que vous faites à la lumière de ce qui a été dit?
Alors, je pense que c'est un cas qu'on trouve effectivement en Afrique, en Amérique, en Chine, dans tous les pays de l'Est depuis longtemps, mais je trouve pas en France, enfin, j'espère.
Et ça viendra pas en France?
Parce que quand même, en France, l'urbanisme de plaque est quand même remis en cause depuis un certain temps. On s'est posé depuis longtemps la question de la mixité. Il reste évidemment des restes des années où ça a été pensé comme ça. Mais quand même, ça évolue assez vite et il faut reconnaître que les aménageurs ont fait leur boulot et les promoteurs aussi. Mais ça va aller encore plus vite. Pourquoi ? Parce que on pensait jusqu'alors produits, voilà. C'est des logements qu'on fait et en fait, c'est les produits d'une filière industrielle immobilière finalement. Et en fait, cette notion de filière industrielle, tout ça, elle évolue parce que et elle va évoluer encore plus parce que les techniques aussi vont évoluer. Prenons l'exemple seul du bas carbone. La réflexion seule sur le bas carbone, qui est quand même assez nouvelle finalement, qui est maintenant dans la loi, etc., elle amène une autre façon de construire. C'est-à-dire, parce qu'on est bas carbone, on va, au lieu de faire du béton branché avec des murs partout, ben on va essayer d'avoir moins de béton pour avoir un meilleur impact. Donc on va passer
au poteau poutre. On peut mélanger du bois et du béton.
On peut faire du mix, donc le bon matériau au bon endroit, évidemment. Mais on peut aussi, surtout, faire moins de matériaux. Donc travailler sur le poteau poutre au lieu de travailler sur le mur. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où on a une structure poteau poutre, eh ben, du coup, on peut penser transformation, usage, logement transformable, bureau transformable en logement. On pense durée aussi, parce que la structure, elle va durer dans le temps, même si les usages changent. Et puis, ça va changer la version industrielle aussi. C'est-à-dire que ben, finalement, on fait une structure qui peut servir à plusieurs choses. Et donc, peut-être la question du logement, on va pas faire forcément tous les étages pareils. Mais parce que l'industrie dispose aussi maintenant de nouveaux outils informatiques, numériques, qui lui permettent de penser la différence et d'obtenir les mêmes performances finalement avec des filières sèches, etc. Et ben, on va pouvoir inclure la différence à l'intérieur du bâtiment même. En gros, là où avant on mettait tous les étages pareils, aujourd'hui, dans les projets bas carbone, eh ben, on travaille sur la particularité. Chaque étage est différent, les gens peuvent choisir eux-mêmes, le promoteur va accompagner.
Le désir, la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre change aussi les pratiques métiers. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y avait des pratiques métiers qui étaient faciles? Quand vous parlez des poteaux poutres par rapport au mur, c'était facile. Aujourd'hui, on
alors,
se pose des questions.
Le poteau poutre par rapport au mur, c'est nouveau, parce que jusqu'alors, on faisait du béton manché. Ouais. C'est pas parce que les architectes avaient
donc
choisi.
Donc c'est quoi? C'est la technique.
Ça fait 30 ans que les architectes veulent faire du poteau poutre, ouais. Mais c'était plus facile pour les entreprises de faire du béton manché. Pour les ingénieurs, voilà. On faisait ça, voilà, c'était la solution, voilà, la plus économique, etc.
Il y avait quoi, une logique industrielle?
Aujourd'hui, la logique est différente, parce qu'il y a cette imposition du bas carbone, donc il faut moins de matière. Alors, ça vient pas pour rien à ce moment-là. C'est aussi qu'il y a une pénurie de sable, de gravier, de matières premières. Donc finalement, alléger la construction, faire avec moins de matériaux et moins de tout, et la faire plus durable avec la structure reproductible et interchangeable, c'est quand même du bon sens. Et voilà, ça va faire que dans un même immeuble, là on vient d'en proposer un sur un concours, on a à certains étages des co-living seniors, à d'autres des logements faits sur mesure, suivant les volontés des habitants.
Attendez, co-living seniors?
C'est habiter à plusieurs pour pas être seul.
Les vieux ensemble ou...
Par exemple, des amis qui veulent se mettre ensemble, des groupes d'amis.
Ah d'accord. Okay.
Et plutôt qu'être seul plus tard, voilà, ils se mettent ensemble et donc ils organisent une nouvelle offre en fait. Je dis pas produit parce que c'est des logements en fait. Ouais. Je crois qu'on devrait plus parler de produit en fait. C'est des logements différents pour des besoins différents, mais c'est aussi, on pourrait aussi imaginer du co-living intergénérationnel.
C'est
aussi sympa, les gens veulent se mélanger, les gens veulent plus être seuls, et c'est aussi la leçon du Covid, on veut plus ça en fait, et les familles ne veulent plus ça aussi pour leurs anciens. Puis de toute façon, personne n'a envie de vivre ça en fait.
On n'est pas en train de créer, François Riossec, on n'est pas en train de créer un nouveau kibbutz urbain quelque part, une volonté dans laquelle l'individualisme se heurte aujourd'hui aux défis climatiques, aux défis de société, à la philosophie du vivre ensemble, et aujourd'hui on a envie de retrouver cela. François Riossec.
Oui, je crois que cette période de Covid a été intéressante parce qu'elle a permis aux personnes de prendre conscience, si vous voulez, que de relativiser le travail, de passer au télétravail. Ça a été vraiment une révolution en 24 heures. Le tiers des Français a vécu et 20% continuent de télétravailler.
Par la contrainte au début, c'était une contrainte terrible.
Il y a une demande très forte de télétravail. Ça veut dire une plus grande liberté par rapport au lieu et en même temps le sentiment de la contrainte du lieu que l'on habite. C'est-à-dire que ceux qui sont mal logés vivent très mal la contrainte qui leur est faite et la difficulté qu'ils ont à pouvoir avoir un lieu de travail. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de se rappeler que on a divisé par 3 le temps de travail par rapport à nos arrière-grands-parents, du début du 19e siècle, du 20e siècle.
C'est dingue ça, quand on y réfléchit.
Divisé par 3, c'est-à-dire qu'ils travaillaient j'ai relu ces statistiques, 27% de leur temps éveillé. Hein. Donc on est à 8% du temps de vie actuellement travaillé. Ça veut dire aussi que le temps de transport est à peine 1% du temps de vie.
Oui, oui.
Vous voyez, donc ça veut dire que le lieu, le cadre de vie est essentiel.
Oui, c'est ce que disait
D'autant
Thierry,
plus, absolument. Et il y a eu cette prise de conscience et il y a eu aussi cette libération de la parole par rapport au rapport qu'on avait à son logement. Donc il y a eu un certain nombre de critiques faites sur les métropoles, sur l'empilement, etc., si vous voulez. Et donc, une redistribution des cartes qui s'est faite, où les Français ont réexprimé le fait qu'ils étaient attachés à différents modes de vie. Et pour nous, aménageurs, si vous voulez, c'est important de pouvoir concevoir ces différences et les produire. Et donc, dans la relation que nous avons avec les politiques, puisque c'était ta question.
Oui, c'était ces différences qui s'appuient aussi sur une sociologie différente, une anthropologie différente.
Alors, il y a la sociologie des âges, et puis vous avez le fait qu'il y a un tiers des ménages en France est composé de trois personnes et plus, et puis vous avez deux tiers de jeunes ménages ou de personnes plus âgées, si vous voulez, qui ne sont que un ou deux. Donc, qui ont des besoins différents, ce qui fait que le tiers des ménages avec enfants a besoin de grands logements. Et la question, c'est, le grand logement étant plus cher, par définition, comment produire des grands logements abordables ? Alors, c'est là où, traditionnellement, il y avait une production de maisons individuelles, si vous voulez, qui était beaucoup moins chère. La maison, en France, elle vaut 2 500 euros le mètre carré, à neuf. Alors que le prix de production du collectif, le prix du neuf, c'est 4 600 en prix moyen national.
Prix moyen national, Pierre Mittal, si vous avez les statistiques.
Je sens la stat, absolument.
Voilà. Donc on est, si vous voulez, sur des différences de prix de production d'outils.
Ah oui, hein. C'est sans appel.
4 800 euros.
4 800
moyenne nationale.
En 2022, premier trimestre 2022.
C'est incroyable, ouais. C'est fou. Hein.
Donc, ce qui explique, si vous voulez, que nous, opérateurs, on est obligé de tenir compte des outils dont on dispose, de concevoir des mixités, mais de répondre aux populations.
Oui.
Et c'est le problème qu'on a avec la rénovation sur laquelle un certain nombre de politiques nous orientent. On dit que rénover coûte plus cher que le prix du logement à la vente à côté.
Mais c'est vrai.
Et donc... difficulté. Donc, soit on met de la politique publique avec la subvention, soit on ne fait pas.
Ce qui est le cas avec France Rénovation au 1er janvier 2022. Sauf que sur les 800 000 dossiers de France Rénovation, qui s'appelait MaPrimeRénov', hein, avec mon accompagnateur Rénov', les deux tiers des demandes des dossiers, François, c'était de la maison individuelle.
Oui.
Donc on voit bien que le parent pauvre, ça reste encore le logement collectif. Hein, voilà.
Non, mais il n'y a pas de parent pauvre ou de parent riche. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait les différentes typologies qui correspondent aux différents besoins. Il n'y a pas d'opposition entre les besoins.
Mais est-ce que ça veut dire François qu'on va aller toute la logorée qui s'est développée sur le où on a fustigé, on a dit c'est fini le pavillon, c'est fini la maison individuelle.
C'est,
il n'y aura plus d'étalement urbain.
C'est une logorée de politique, c'est pas
fin,
une logorée des Français.
Justement, c'est la fin de l'étalement urbain. Vous l'avez vu, ça a échappé à personne. Emmanuel Wargon était là sur ce plateau pour justement essayer de se justifier. Et d'ailleurs, les journalistes l'ont un peu massacré, puisque en disant c'est marrant, quelqu'un qui nous donne une leçon sur une maison individuelle qui habite d'ailleurs dans une maison individuelle. Mais justement, est-ce que c'est la fin ? Et on dit, quand on interroge les politiques, d'ailleurs, on l'a fait en province avec les différents maires. Les maires disent c'est fini la maison individuelle. Ils en
quelques maires le disent sous pression de l'État.
Par contre,
c'est la relation entre l'État,
une maison et un jardin.
Absolument. Hein, c'est la relation qu'il y a entre un certain nombre de politiques nationales qui veulent économiser du foncier, à juste titre, et le besoin qui n'est pas satisfait à cause de ces politiques. Et donc les Français sont en ménage avec enfants, sont sortis acheter le terrain qu'ils trouvaient, c'est-à-dire plus loin, au bout du tuyau, etc. Et c'est cette dispersion qui a créé le phénomène gilet jaune, c'est-à-dire des gens qui habitaient trop loin de leur centre d'intérêt, dans des collectivités sans structure urbaine. Voyez ? Mais il faut qu'on arrive à produire pour répondre à la totalité des besoins. Et donc c'est une meilleure relation entre élus locaux et opérateurs dans leur diversité qui permettent de répondre aux vraies demandes et aux vrais besoins et aux vraies capacités également. Parce qu'il y a la notion de capacité des ménages.
Qui doit décider, François ? Qui doit décider ?
Moi, je pense qu'il faut...
C'est le PCI, c'est l'action locale, c'est la préfecture.
Il faut qu'on arrive à décider ensemble. C'est-à-dire qu'on arrive à contractualiser ce que Pierre Vital a fait à Bordeaux me semble exemplaire. C'est-à-dire qu'on arrive à contractualiser des objectifs politiques qui sont demandés par les citoyens, c'est la démocratie, et la capacité et la possibilité de construire compte tenu des contraintes économiques, matériaux, etc. Et c'est dans cette relation-là qu'on arrivera à résoudre les problèmes.
Donc vous partagez l'idée de Thierry Pacaud, au cas par cas, sur mesure et avec les habitants.
Mais bien évidemment, oui. Oui,
ok.
Bien sûr.
Donc Thierry, tu avais déjà 30 ans d'avance.
Très bonne. Oui, c'est très bien.
Pardon. Alors, avant que tu interviennes, Thierry, j'ai vu que Anouk voulait compléter l'analyse. Anouk Legendre.
Oui, c'est sur l'étalement urbain, en fait. On justifie finalement la maison, l'expansion des maisons par le prix moins cher. Bon, c'est un prix industriel, c'est parce que c'est des maisons conçues industriellement. Nous, aujourd'hui, on sait faire en semi-collectif ou même en collectif à 1350 euros le mètre carré, coût de construction. Donc, quand en ville, c'est à 4500, c'est aussi qu'il y a d'autres choses qui viennent se surajouter. Peut-être le prix du foncier est peut-être excessif dans certaines villes. Peut-être les villes sont trop gourmandes. Peut-être qu'il faut construire autrement. En tout cas, c'est sûr que le modèle de la maison, d'un point de vue global et de l'étalement urbain, il est très mauvais. Il est mauvais parce que les gens sont obligés de se transporter loin et donc sont obligés de développer des routes, des voitures. Et on sait que les routes, c'est 4/5 de l'imperméabilisation des sols. C'est le gros d'étalement urbain. Des méfaits de l'artificialisation, c'est pas les constructions, c'est les routes. Donc, il n'y a pas de choix pour ça. Ensuite, l'étalement avec les maisons et le pavillonnaire, ça, un deuxième effet qui est très toxique, c'est que quand les gens vieillissent après, ben, ils deviennent des personnes âgées. Quand ils ne peuvent plus conduire, comment ils font ? Donc, ils vont dans les maisons de retraite. Donc, on est obligé d'enfermer des gens, parce que c'est un peu ça, dans des nouveaux produits. Donc, ça devient, en fait... une source de revenus pour les entreprises de maisons de retraite, quoi. Mais tout ça parce qu'on ne sait pas leur procurer à proximité de chez eux, facilement à pied, de quoi se nourrir, etc. S'ils habitaient dans les centres-villes, ils n'auraient aucun problème, ils resteraient libres. Ce modèle, il faut l'oublier. Je m'excuse d'être aussi radical,
c'est un débat qui existe.
Ne pas s'excuser dans ce genre de situation. Ce que vous dites, c'est que la position de vous, Annick Legendre, en tant qu'architecte, vous dites, c'est fini. Il n'y a plus d'étalement urbain en tant que tel, et les zones pavillonnaires, c'est mort.
Ben oui, c'est toxique. C'est toxique pour la ville, c'est toxique pour la collectivité.
Et pourtant, les Français, alors, François, c'est ce qu'ils vous demandent. Ils vous demandent des maisons avec du terrain, avec un peu
alors
de jardin.
Voilà,
le modèle, si vous voulez, j'essaye de sortir de la caricature. Et nos productions, nos nouveaux quartiers sortent de la caricature. C'est-à-dire que à la demande de maisons, parce que la maison correspond presque à une anthropologie, et j'ai bien aimé, moi, je me souviens des lectures que j'avais faites de Gaston Bachelard, si vous voulez, de l'inconscient de la maison, etc. Si vous voulez, c'était pas l'inconscient de l'appartement.
Oui, hein.
Donc, on a une vision, on peut avoir cette vision anthropologique, en quelque sorte, des besoins, et qui correspond aussi à un coût de production, puisque moi j'essaye de joindre ces deux, avec les impératifs d'économie d'espace, de densification, d'avoir plus de logements à l'hectare qu'on en pratiquait quand le diffus était imposé réglementairement. Donc on a eu imposé 2500 mètres carrés pour des questions d'assainissement, enfin peu importe. Mais c'est pour dire que on doit pouvoir réconcilier ces différentes demandes. On ne peut pas dire à des citoyens, vous voulez quelque chose, eh bien on fera le contraire, parce que moi j'ai pensé que c'était mieux pour vous de ne pas vous donner satisfaction. Ça ne me semble pas démocratiquement tenable, ce n'est pas tenu. Les Français décident tous les jours d'avoir plusieurs formes d'habitat, de les acheter différemment, de les vivre et de passer d'un mode d'habitat à l'autre.
Voilà. Ouais, j'aimerais bien entendre.
La durée de possession d'un logement en France est de 11 ans, ouais, statistiquement.
11 ans.
Voilà.
D'accord. Alors, justement, François, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je voudrais voir l'avis de Thierry. Thierry, aujourd'hui, le philosophe que tu es, est-ce que on doit se dire, les Français veulent ça, les habitants veulent ça, c'est ce qu'on va leur faire. Dans le sens et à côté de ça, on a des contraintes environnementales, défis climatiques, défis de trouver des matériaux, défis économiques, environnementaux, bref, des défis de société.
Alors, je voudrais juste quand même revenir sur deux points, parce que quand Anoub dit qu'il n'y a pas de gated community en France, là, je pourrais lui indiquer les chiffres, c'est considérable. À Nantes, à Dijon, dans la banlieue parisienne, moi, j'en vois partout. Donc là, il ne faudrait pas idéaliser.
J'en connais une dans les Yvelines, effectivement, une résidence fermée où il n'y a que des...
On n'a jamais travaillé sur des... Oui, mais
c'est impressionnant. C'est vraiment Monet de Croix, qui est un promoteur que vous connaissez, a commencé le premier à miser sur ce produit, je reprends ce terme avec des guillemets, comme je disais tout à l'heure, à Toulouse. À Marseille, où j'étais invité la semaine dernière par un collectif d'habitants, il y a 1550 voies privées. On peut acheter la voie, on peut acheter la voirie. Alors, il ne faut pas non plus tout d'un coup rêver et dire « Non, non, nous, en France, ça n'arrivera jamais, c'est un truc américain ou chinois, pas du tout. » Non, non, les enclaves résidentielles sécurisées sont massivement présentes ici et elles vont à l'encontre de l'idée que moi, je me fais de l'espace public qui est la gratuité et l'accessibilité. Là, c'était le premier point. Le deuxième point, Bernard Blanc parle pas d'aménagement à Bordeaux. Il appartient au collectif de la frugalité heureuse et créative qui va se réunir à Bordeaux bientôt. Du reste, il parle de ménagement, du verbe ménager, c'est-à-dire prendre soin. Donc, je pense que si on écologise notre esprit, il faut qu'on soit toujours en train de saisir le processus, la transversalité et l'interrelation. Et ça, François l'a très bien dit, et je rebondis sur ce qu'il a précisé, on ne peut pas aller à l'encontre d'une demande qui est au plus profond de l'être humain, qui est d'avoir un chez-soi. Alors, la question fondamentale dans notre société, c'est de quel soi s'agit-il ? Et moi, je défends la maison individuelle, et non pas parce qu'elle est liée à l'étalement urbain, c'est encore une vision de l'esprit que je trouve tout à fait discutable. Lorsque j'ai écrit mon pamphlet contre les gratte-ciels, tout de suite, les journalistes m'ont dit « Ah, vous êtes donc contre les gratte-ciels, vous êtes pour l'étalement urbain ?» Et j'ai expliqué que les deux appartenaient à la même conception de l'urbanisation. Donc, il y a eu, dans l'histoire, il y a eu des tas de maisons qui ne sont pas responsables de l'étalement urbain. Il y a des villages qui sont très denses, qui sont très compacts. Il y a des architectes comme Giancarlo De Carlo, Lucien Kroll ou Patrick Bouchain qui font de la maison individuelle sans étalement urbain. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Bon, donc, je ne pense que la diabolisation, pour prendre l'expression très jeune, de Sylvain, la ministre, l'ex-ministre du logement, diaboliser la maison individuelle, c'est absurde. Il faut revenir et penser au réemploi et à la réhabilitation. Je ne suis pas d'accord avec vos chiffres, parce que j'en ai d'autres, moi, de réemploi qui coûtent moins cher que du neuf. Donc là aussi, il faut étudier, encore une fois, cas par cas, etc. etc. Bon, moi, je crois, et là, je citerai Bachelard, dans La poétique de l'espace, qu'on ne lit pas, on ne relit pas assez souvent. Il part de la maison natale parce que c'est un archétype, au sens de Jung. La maison natale n'est pas un corps de logis, dit-il, c'est un corps de songe. Et nous, les êtres humains, nous n'habitons pas des mètres carrés. Nous habitons une demeure qui nous cosmosise. Si on n'a pas ce rapport au cosmos, on est perdu. C'est ça qui est fondamental.
Merci beaucoup Thierry. Et il va falloir qu'on aborde la dernière partie qu'on va faire très très court parce que bien évidemment l'émission a explosé le timing, mais l'avantage des podcasts vidéo filmés c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut et avec Ideal Group on ne va pas ménager notre plaisir justement de saisir cette opportunité. Autrement dit, le pari que nous avons fait c'est de ne pas l'impératif ou l'injonction du temps réduire notre contenu. Je suis ravi vraiment que ce débat se développe, on le fait pas assez souvent je trouve. Troisième partie, on va parler des solutions rapidement, qu'est-ce qu'il faudrait faire en quelques minutes si on peut.
Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville.
Penser la ville, c'est penser les solutions, c'est penser la résilience des professionnels de l'immobilier, mais pas que. Avec les élus, question, Pierre, est-ce que c'est possible ?
Alors déjà, il faut qu'on ait une directive qui soit portée par un ministère du Logement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc c'est dommage de ne pas de démarrer, on va dire, cette nouvelle mandature avec finalement aussi peu d'intérêt pour le logement. Et c'est primordial parce qu'aujourd'hui, le sujet du logement, comme on l'a évoqué, est un sujet qui préoccupe tous les Français. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même aussi réfléchir aux solutions.
Alors Amélie de Montchalin a annoncé quand même
qu'après
les résultats du second tour au 19 juin 2022, elle se doterait d'un secrétaire d'État. Ceci dit, il est possible aussi qu'elle ne soit pas réélue. Et si elle n'est pas réélue, elle ne sera plus ministre. bis repetita.
Effectivement, on part du principe que les choses vont évoluer dans un secrétariat d'État, donc ce qui est
ou un ministre délégué,
ce qui est pas forcément satisfaisant pour nous.
C'est la même chose.
C'est à peu près la même chose. Bon, l'important c'est que ça bouge, et c'est que ça bouge et qu'on ait aujourd'hui des directives qui soient claires.
Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre ?
Alors, pour moi, et ça c'est un sujet qu'on évoque tout le temps, il faut que il y a des règles. On a des droits, donc les droits à construire. Il faut absolument et impérativement que les PLU soient, appliqués à leur pleine capacité.
Oui, respectés.
Parce que juste respecter.
C'est quand même, faut quand même le rappeler à ceux qui nous écoutent. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, on est d'accord ?
Oui.
C'est une autorisation à construire avec des dimensions, des éléments.
Votée par les élus.
Sauf que les élus eux-mêmes ne les respectent pas.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, ce que vous ne demandez pas, ce n'est pas un surcroît du PLU.
C'est l'application des règles du jeu. Alors, c'est ce qu'on évoquait quand je parlais de la discussion qu'on a pu avoir avec la mairie de Bordeaux, c'est que les règles du jeu soient établies. Qu'on fixe des objectifs, parce que aujourd'hui on parle de besoin de logement, on parle de 500 000 logements à produire pour satisfaire les besoins, là où on en est à 350, un peu plus de 350 000 sur l'année 2021. Donc on est en retard. Ça veut dire qu'à un moment donné, première question, c'est si on se fixe des règles, mais qui doivent être des règles partagées, parce qu'il faut qu'elles soient partagées avec des besoins réels localement, avec des élus qui vont porter la politique du logement. Mais une fois que les règles sont établies, nous, ce qu'on demande, effectivement, c'est une réelle application stricte et être capable, du coup, de ne pas se poser ces tergiversations qui sont souvent très longues sur, finalement, le PLU permet de faire 100, on va faire 60, et dans les 60, on va vous demander tel type de logement, tel type de logement. Ce que je pense, et ce qu'on a dit, je pense, tout au long de l'émission, c'est qu'il faut produire pour le déjà là, pour les gens qui sont dans le quartier, sur les besoins qui existent, pour les gens qui arrivent aussi dans cette flexibilité qu'on se doit d'avoir, parce que les attentes des futurs clients évoluent tous les jours. Et donc, il faut garder cet esprit-là d'être dans l'attente de cette réactivité-là. Donc, pour moi, première chose, premier point, faisons en sorte que le PLU est appliqué dans sa stricte application votée, qu'on puisse prévoir, pourquoi pas, plus d'ambition, parce que je pense qu'aujourd'hui, on nous force à aller sur la décarbonation, qui est évidemment un sujet fondamental, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on pourrait faire mieux, plus, tout comme le seul logement social, en utilisant des bonus de constructibilité. Donc là, c'est un sujet aussi qu'on a vu.
C'est quoi un bonus de
constructibilité ? Par exemple, c'est le cas aujourd'hui sur des communes qui sont carencées, où on pourrait tout à fait prévoir que si, au lieu de faire 35% de logement social, on en fait 50, on va pousser sur une capacité du PLU qui est à 100, qu'on positionne à 110, 120.
Ah oui, d'accord.
Et donc là, ça pourrait être aussi une solution assez
Du coup, ça devient vertueux, parce que ça fournit du logement suffisant.
C'est gagnant-gagnant.
Et abordable pour tous les Français.
Gagnant-gagnant. Donc ça, c'est un deuxième sujet, moi, qui me paraîtrait tout à fait envisageable. Ça avait été le cas dans le cadre de la rénovation, de transformation de bureaux en logement. Il y avait des dispositions de bonification qui étaient prévues, donc pourquoi pas l'appliquer aussi de façon plus générale. Et après, pour produire bien et efficacement, il nous faut du secteur aménagé. Donc il faut que les terrains soient libérés, il faut que l'État, les collectivités identifient des futures zones et des futures poches, parce que ce souhait très, très désirable de venir faire sur le logement diffus, de venir faire le logement dans le diffus, c'est-à-dire d'aller acheter une parcelle, puis deux, puis trois pour reconstituer un groupement, c'est un temps de projet qui est très long, c'est souvent des territoires qui sont déjà constitués, donc venir faire une opération, c'est plus contraignant, plus de recours, plus de négociations, alors que sur les secteurs aménagés, on a de la visibilité. Et on l'a vu sur des territoires qui, du coup, perdent leur capacité de production en secteur aménagé. C'est des territoires où les rythmes de production de projets sont plus longs. Donc, moi, j'en appelle aussi à ce que les élus, à ce que les grands propriétaires fonciers mobilisent les fonciers, puissent permettre ces transformations-là dans, en plus, une ambition environnementale plus forte et dans une ambition de faire du logement plus désirable, plus importante. Et ça, si on n'a pas cette matière première-là, on n'y arrivera pas, et la machine est déjà grippée, donc on ne fera qu'accroître la complexité et la situation qu'on a aujourd'hui.
Les solutions sont là, en fait. Elles sont vraiment là. François Riossec, si on devait aujourd'hui essayer d'établir un plan Marshall pour essayer de réformer ou peut-être d'avancer, compte tenu des aspects politiques qui ne sont pas très encourageants, faut le dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Moi, je vois trois axes principaux. c'est d'une part arrêter les réglementations stressantes pour le logement et également tout le secteur du bâtiment, c'est-à-dire que la loi climat telle qu'elle est appliquée actuellement sous un angle exclusivement arithmétique crée un stress inutile. On est en train de faire flamber les fonciers, d'empêcher de construire là où sont les besoins. Ça me semble très franchement néfaste, voilà, en termes de production, de qualité et de prix.
Bah déjà, on n'arrivait pas à fournir suffisamment.
Donc le Sénat est en train
là
d'évoluer, ouais, de reprendre, de faire une étude pour faire des propositions. Je pense qu'on va là. Il faut que les élus locaux fassent remonter les besoins dont qui sont les leurs et de leurs citoyens. Et ensuite, ça permettra d'avoir une vérité de contrat entre l'élu et l'opérateur. C'est-à-dire que c'est l'élu qui est en charge de son projet de territoire. Et pour être dans le réel de la commande, si vous voulez, d'un projet qui ne soit pas attaqué par les riverains, qui soit accepté par les nouveaux habitants, par qui apporte des services à la collectivité, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre l'opérateur et l'élu. Et donc, on ait un contrat objectif. Aujourd'hui, penser que c'est le préfet qui impose des hauteurs dans les PLU, qui sont refusées ensuite par les riverains, qui attaquent le permis. Il y a 14 000 permis attaqués en France, dont beaucoup de collectifs,
incroyable,
principalement des collectifs. Vous voyez, donc on est dans on coince la production par ces injonctions contradictoires. D'un côté, l'État qui pousse à des hauteurs refusées. Le maire qui est pris dans un millefeuille administratif où il finit par accepter. Il défend à la tribune, son PLU. Mais derrière, il nous dit, quand on vient avec un projet, faites-moi les deux tiers, faites-moi la moitié, un étage de moins, deux étages de moins. Et ça dure des mois et des mois pour aboutir à un permis qui finalement peut être attaqué. Enfin bref, on est dans un ensemble de contraintes qui ne sont pas saines et qui aboutissent à cette difficulté à produire. Donc, il faut réunir et avoir la liberté de contractualiser, et le contrat sera ensuite validé par l'État, le préfet. On n'est pas là pour contourner des règles.
Qui a la main à ce niveau-là? Qui a la main, vraiment la main politique?
En ce moment, il y a plusieurs mains. Vous avez la main du préfet qui joue en amont sur les règles de PLU. Il n'y a pas de PLU qui soit voté sans l'accord de l'État.
Vous êtes d'accord, François, qu'un promoteur qui ne verrait pas respecter le PLU, parce que l'élu local a décidé, pourrait avoir un recours juridique? Est-ce qu'on peut...
Est-ce qu'on tout peut, le monde peut attaquer
est-ce
tout le monde.
Est-ce qu'on peut enjoindre l'élu local à respecter son PLU? Non, mais je veux dire, à un moment donné,
au lieu de subir quand on est promoteur... Il promoteurs, effectivement, oui, qui ont eu des refus de projet. Leur projet était conforme au PLU.
Absolument.
Le maire, par souci électoral...
Électoral.
Mais qui n'est pas malsain, le souci électoral.
Non, on comprend.
Il est démocratique. Donc, okay, c'est
est-ce qu'on peut avoir un recours?
Le maire, voilà, a refusé. Ensuite, le promoteur a attaqué. Il y a, je crois, ça y est, des jugements qui donnent raison au promoteur et qui lui permettent d'avoir un permis. Donc, on est quand même. Ça devient compliqué.
Oui, si on en arrive là, c'est galère, hein, quand même. Hein.
Oui, c'est quand même malsain.
Ouais, c'est malsain.
C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie perdue. Ouais. Donc, mais tout cela vient de l'empilement des contradictions, une fois encore. Et donc, il faut sortir des contradictions, c'est-à-dire permettre des densités qui soient admissibles.
D'accord. C'est quoi? C'est un choc de simplification que vous souhaitez? Parce que quand je vous ai posé la question hors antenne sur le ministère du Logement, vous avez dit...
Sortir des contradictions, des injonctions. C'est-à-dire que ce n'est pas au préfet de dire au maire quelles sont les hauteurs de bâtiments, les densités, etc. D'autant plus que bien souvent, les densités sont comme une mesure avec ce qui se passe actuellement. Pensez que, par exemple... Un quartier de 25 maisons, on dit 25 maisons, c'est pas dense. Mais 25 maisons, ça fait 58 habitants à l'hectare, ça fait 5800 habitants au kilomètre carré. C'est plus que Bordeaux. Et le préfet dit, en dessous de 35, en dessous de 50, il faut faire plus. Donc vous voyez qu'on est dans des règles et des images qui sont fausses par rapport à la réalité.
Ah, absolument, oui, tout à fait.
Quand vous êtes à 100 logements de l'hectare, qui est des densités qui se passent dans certains quartiers nouveaux d'hypercentres, ça vous fait du 20 000 habitants au kilomètre carré, c'est la densité de Paris.
Absolument. Qui est d'ailleurs la ville la plus dense après Bombay, hein, juste pour donner une idée. Hein.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire par endroit. Ouais, si ouais. Vous voulez. Une fois encore, on n'est pas dans le choix des typologies. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut permettre les libertés pour répondre aux besoins là où ils sont. Donc ce contrat de confiance permettrait d'avoir des autorisations, d'abord des permis d'aménager, le PLU, on pourrait lier PLU et... c'est-à-dire le plan local d'habitat, la planification, et puis le projet. Mmh. On avait autrefois des ZAC qui permettaient de déroger à un POS, qui est au plan d'occupation des sols, qui permettait, si vous voulez, d'obtenir à la fois planification et programme, et de couper ces délais qui s'empilent, 2 ans pour un SCOT, 2 ans pour un PLU, 2 ans pour un projet, ça fait 6 ans, c'est-à-dire que le mandat du maire est passé à faire des études urbaines qui n'aboutissent pas à une réalisation. Vous voyez ? Donc, on pourrait contractualiser tout cela ensemble et aboutir à une autorisation qui serait à la fois plan et autorisation. Voilà. Donc, la deuxième proposition que nous faisons, c'est que l'inquiétude climatique doit être intégrée dans le projet. Donc on a proposé un permis d'aménager bioclimatique, c'est-à-dire que les fonctions des sols que la loi se programmait de sauvegarder peuvent être intégrées, c'est-à-dire l'agriculture urbaine, on peut mettre de l'agriculture, on peut mettre de la biodiversité, planter abondamment des arbres, aboutir à un rafraîchissement climatique par tout ce programme de plantation, par un stockage carbone. Enfin bref, on peut le faire. Aujourd'hui, on sait le faire. On arrive à quantifier. Et nous sommes en train d'outiller, si vous voulez, une démarche qui intégrera tous ces outils pour permettre de répondre aux inquiétudes par le projet et non pas contre le projet, parce qu'aujourd'hui, une fois encore, on interdit de faire pour sauver.
Oui, je comprends.
Et en interdisant de faire, on pousse à détruire des quartiers de résilience dans les villes, où on va réunir 3 maisons pour faire un immeuble, etc. Ce qui n'est pas en soi aberrant, si vous voulez. Mais quand on ne fait que ça, où va-t-on loger ceux qui étaient dans les maisons ? Vous voyez, enfin, on a un problème de conception. On pousse quelque part à faire pire que le... Vous voyez, c'est là où la recherche du mieux, parfois, n'est pas le bien. Hein. Le mieux est l'ennemi du bien.
Le mieux est l'ennemi du bien, absolument. Voilà.
Donc ça, c'est le deuxième point. C'est intégrer ces soucis, enfin, ces nouvelles technologies dans le PA bioclimatique. Et puis, le troisième point, il faudra remettre à plat une fiscalité locale, une fiscalité du logement.
C'est sujet compliqué.
Moi, j'ai pas d'idée simpliste. Non, mais aujourd'hui, le maire central, qui accueille des habitants n'a plus d'incitation,
avec
moins de moyens,
avec des
donc
dotations,
ça devient compliqué pour lui.
Pour certaines,
ça devient objectivement compliqué.
Absolument, donc, pour certains élus locaux, des dotations qui ont fondu...
Voilà. Donc on doit remettre sur le tapis ces questions fiscales.
Merci François Arieux, c'est que c'est très clair. Anouk Legendre, si on devait décrypter et donner des axes assez résilients pour y arriver, parce que franchement c'est un peu schizophrénant lorsqu'on entend tous ces sujets, qu'est-ce qui serait... On parle de bon sens, hein, on parle de bon sens. Moi je reviens un peu sur ce que disait tout à l'heure d'ailleurs Thierry. Thierry, c'est cas par cas, sur mesure, avec les gens. J'allais dire que c'est presque un réflexe paysan de bon sens d'aménagement. Anouk Legendre.
Alors oui, on est confronté aujourd'hui à un problème de désirabilité de la ville. On a parlé tout à l'heure du pavillon, que tout le monde désirait ça pour être tout seul chez soi.
Mais c'est vrai.
Faire ce qu'ils veulent, etc. C'est dans la nature humaine d'agir sur l'environnement.
Mais oui, avoir son bout de jardin, avoir son...
Mais aujourd'hui, en fait, on peut avoir tout ça dans le logement intermédiaire, dans du logement collectif. Les architectes ont des solutions, les aménageurs aussi. Il faut juste aménager autrement. Peut-être en reconstruisant la ville sur la ville et en gardant au maximum les existants, même si ça coûte un peu plus cher. On peut aussi pluguer des choses à l'intérieur pour que ça coûte moins cher, etc. On peut reconsidérer la façon dont on va traiter la friche. Par exemple, on vient de gagner un projet qui réutilise une grande friche industrielle et on réutilise le bâtiment comme nouveau foncier. On construit dessus. Sans le démolir, alors qu'il était demandé de le démolir.
C'est la ville sur la ville. Quoi.
Et donc, on fait gagner beaucoup d'argent aux promoteurs. Mais surtout, on est très bas carbone, puisqu'on ne démolit pas pour reconstruire, on réutilise ce qu'il y a. Et là où il fallait reconstruire de la ville, et du coup, comme on n'a pas besoin, puisqu'on a reconstruit sur l'existant, ben on fait un grand forêt filtrante, et ça va être bon pour la biodiversité. Ben, cet exemple, il peut être réutilisé ailleurs. Quand on va repenser la place de la voiture dans la ville, ben, si on regarde les grands parkings autour des centres commerciaux, etc., il y a juste des gisements énormes pour des nouvelles villes autour de la structure commerciale. Et en fait, finalement, on va reconstruire une ville locale autour de ces centres qui étaient loin des villes. Au moins, on réutilisera l'existant. Il faut aussi aménager autrement, c'est-à-dire peut-être plus low-tech, moins minéral. Enfin, minéral coûte cher, en fait. Nous, on a réfléchi à des systèmes sur le quartier Amo+, notamment, qui est un quartier énergie positive. C'est des quartiers sans pétrole. Donc avec des sols en stabilisé, les voitures restent à l'entrée du quartier. Bon voilà, on a repensé la place de la voiture et ça, quand on pense moins minéralisé, un aménagement moins minéral et plus végétal, globalement ça coûte quand même moins cher. Ça permet aussi de vendre, puisqu'on a fait un aménagement moins cher, on peut avoir un foncier moins cher pour ceux qui vont construire, pour les promoteurs. Et là, on va pouvoir travailler. Il y a des solutions en utilisant justement les nouvelles ressources de l'industrialisation sur mesure et de la filière sèche. Il y a des solutions pour faire baisser les coûts de construction. Et peut-être ces solutions vont nous servir à faire des logements à la fois plus grands, mais aussi avec plus d'espace de plein air, d'extérieur. C'est vraiment une revendication aujourd'hui, pouvoir faire le tour de son logement dans une galerie ou avoir une grande terrasse de 30 mètres carrés ou avoir un jardin. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être offert. Il y a aussi, parce que les habitants veulent ça, ont cette revendication, d'être chez soi comme dans sa maison, pouvoir aller dehors, pouvoir faire le tour, pouvoir agir sur leur environnement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des solutions sur l'espace intermédiaire, que dans une copropriété, jusqu'alors, l'espace intermédiaire était dessiné par le paysagiste, et alors on ne pouvait pas y toucher. Peut-être que maintenant, l'espace intermédiaire, c'est un jardin qui est partagé avec les voisins. L'espace intermédiaire, c'est la reconquête des toits qui, lui aussi, va être partagé avec les voisins. Et puis, on va peut-être faire des liens entre les toits. Ça va devenir un nouvel espace collectif, mais participatif. Et peut-être que si on continue cette logique et qu'on réinterroge à nouveau la place de la voiture dans la ville, on va s'apercevoir que dans les villes mêmes, il y a peut-être des rues qui ne sont pas utiles vraiment pour le commerce, la circulation, etc. Peut-être juste, ça peut être des espaces piétonniers, et peut-être qu'elles peuvent redevenir des espaces domestiques qui pourraient être donnés aux habitants pour qu'ils agissent dessus. Et là, si les habitants, ils peuvent à nouveau agir sur leur environnement immédiat par ces espaces intermédiaires, semi-collectifs, domestiqués, etc., finalement, on va réaboutir à un sort de délocalisation ultime qui redonne aux habitants la mainmise sur leur territoire. Et en fait, c'est ça qui manque, parce que finalement, c'est dans la nature humaine aussi d'agir dans son territoire. Et l'industrialisation a enfermé les gens dans des cases. Et après le Covid, ils veulent en sortir, ils veulent autre chose.
C'est très clair. Pierre Vital.
Je réponds juste à un point sur ce que dit Anouk. Je trouve ça intéressant, parce que ça veut dire que le collectif tel qu'on l'envisageait est un peu obsolète, donc du coup ça nécessite la frontière entre le privé et finalement le dedans, le dehors, entre la copropriété, le quartier, finalement est plus très net. Donc ce qui est intéressant, c'est que rendre désirable un projet, c'est aussi de faire en sorte que dans son individualité, il arrive à donner et apporter une vraie plus-value au quartier. J'ai en tête quelques exemples. On travaille sur une opération justement avec la ville de Bordeaux où cette notion de la limite entre le privé et le public est importante. Il y a cette notion de frontage où on vient revégétaliser les rues et qu'on voit effectivement l'impact que ça peut avoir en termes de perception de chaleur l'été. C'est quand même hyper intéressant. Et de la même façon, on a des territoires où on vient utiliser des espaces qui sont des espaces végétaux qu'on recrée dans les copropriétés et qu'on va venir laisser ouverts en extérieur, co-gérer avec la collectivité, Donc du coup, il y a une notion de partage de coûts sur l'entretien de l'espace vert. Et donc du coup, c'est gagnant pour la copropriété qui n'aura pas l'entretien à faire. Et c'est gagnant pour la mairie qui du coup fait que sur un territoire où il n'y avait pas de petit square, on vient en recréer un. C'est peut-être aussi une façon, de, comme le disait Anouk, de rendre plus désirables les projets immobiliers. La base, et qui crée toutes les frictions qu'on a aujourd'hui pour faire accepter une densité, bah, c'est finalement un élu qui ne veut pas se confronter aux riverains.
Ben oui,
Demain, arriver à trouver sur certains aspects le pas de côté qui fait qu'un projet va être désiré par le quartier fera que du coup les élus auront plus de facilité à assumer cette densité.
S'il y avait une concertation effectivement, et d'ailleurs vous vous y mettez puisque il y a de plus en plus de concertations effectivement, on a observé statistiquement que plus de la moitié des dossiers passaient parce qu'on prenait en compte les désirs des habitants. Et une considération, et j'ai même entendu des choses surréalistes du style, pour une fois que je suis consulté, que je suis respecté, reconnu, et cette reconnaissance citoyenne de l'administré, elle est importante pour l'élu, parce qu'elle est une des conditions, effectivement, de sa temporalité électorale.
Ouais, donc ça me paraissait intéressant de rebondir sur ce que disait Anouk.
Alors, donc, les solutions, elles sont là, en fait, concrètement, Thierry. Pour conclure... C'est, on va dire, si on devait classifier, alors on a vu ton programme, effectivement, ce souhait cas par cas, sur mesure avec les habitants, avec les trois notions que tu as déclinées tout à l'heure, que j'aime beaucoup, c'est l'urbanité, la diversité et l'altérité. Intéressant parce qu'à travers ce mot, il y a aussi l'idée du vivre ensemble, d'une communauté qui pense véritablement et qui fait société. Thierry Pacaud, pour conclure cette émission.
Bah, conclure, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Moi, je vais simplement, d'un point de vue qui est le mien, c'est-à-dire celui de la philosophie de l'urbain et de l'écologie, essayer de simplement de dire que la question fondamentale pour tout être humain, c'est celle de combiner le plus harmonieusement possible les territorialités et les temporalités de son existence. Parce que ça a été dit, plutôt par François que par Anouk ou Pierre, il y a des rythmes, il y a des processus qu'il faut prendre en considération, et donc le travail, le transport, tout ça, on voit bien que tout est lié, on est dans un processus d'unité. Du reste, c'est ce que racontait Bachelard quand il parle de la maison. Il dit la maison, c'est ce qui permet la stabilité de l'être. Et nous, on est dans une société où on est morcelé. On est usager, consommateur, parent d'élève, covidé, touriste, etc. Non. À un moment donné, il nous faut réunir tous ces éléments et part de notre propre moi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du chez-soi en posant la question de quel soi il s'agit. Là, il ne faudrait pas tomber non plus dans le discours à la mode qui est de dire... Alors, cultivons les toits, résilience, inclusif, et tous ces mots-là qu'on entend partout, que tous les élus utilisent en permanence, sans avoir un projet fondamental, civilisationnel, j'allais dire, pour prendre les termes d'Edgar Morin, sur qu'est-ce que c'est que la territorialité de notre devenir. Donc, ce n'est pas la ville. La ville n'est pas seulement le seul lieu dans lequel il y aura des gens qui vont résider. Ce n'est pas non plus la campagne puisqu'elle n'existe plus. C'est donc essayer de fabriquer à nouveau une territorialité qui soit ajustée à nos temporalités. L'exemple du télétravail est excellent. J'en refaisais l'historique pour une conférence. Le télétravail, c'est 1977, ça apparaît. Et puis tout de suite, on dit « Ah, ça va se faire dès demain !» en 78. Bon, pas du tout. Ça n'a pas pris parce que le patronat voulait avoir tous ses salariés dans son gratte-ciel à la Défense ou ailleurs. Bon, donc, comme tu l'as dit, Sylvain, très justement, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés contre le télétravail parce que ça allait supprimer la séparation entre le professionnel et le familial. Et donc, c'était bien souvent un alourdissement. C'était une charge de plus. Donc, il nous faut réfléchir à quelles sont les tâches qui permettent le télétravail, qui est en fait une réflexion sur le travail et donc sur la localisation de celui-ci. Et donc, effectivement, tant qu'on aura une femme de ménage des tours de bureau de la Défense qui habitera à Pantin, eh bien, elle aura forcément une heure et demie de transport le matin, une heure et demie de transport le soir, ce qui est absurde. Donc, le bien-être de chacun d'entre nous, c'est cette réconciliation, cet accord entre ce que Bachelard appelait la topo-analyse et ce qu'il appelait aussi la rythme-analyse. Voilà, je m'arrêterai sur cette
Merci
dimension-là.
Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'avoir, Thierry. Thierry, qui a une œuvre considérable, éditée aussi chez mon ami Anne Solange-Mis, édition Terre Urbaine. Lisez ce livre, Désastre Urbain, où tu avais déjà prophétisé, entre guillemets, ce qui est en train de se produire. Voilà, je suis ravi. On a littéralement explosé le timing, mais cette, mesdames et messieurs, vu qu'ils nous écoutaient, cette émission sera découpée en trois parties. Je vous donne les parties. Cette première séquence de la première partie, ce sera les 30 premières minutes, sera consacrée à cette introduction et la contextualisation sur notre thématique sans exclusive. La deuxième partie sera celle où on a débattu effectivement du rôle de chacun et comment effectivement aborder cette complexité, parce que bien évidemment, penser la ville, ça reste complexe, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Et enfin, une troisième séquence sur laquelle vous aurez aussi accès à ce contenu avec les différentes solutions qui posent plus finalement un cadre de réflexion. Finalement, c'est toujours des rencontres à épisodes et je serai ravi de vous revoir prochainement sur les antennes. Anouk Legendre, merci beaucoup de votre participation. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'agence XTU, mais vous avez un associé aussi qui est avec vous, absolument. Une architecte aujourd'hui reconnue et connue dans le paysage urbain français. Merci Anouk Legendre d'être passée par le plateau. Merci, un grand merci à François. Je ne savais pas que tu étais lecteur de Bachelard, mais voilà, j'avais déjà une très haute opinion, mais merci. Maintenant, tu es rentré dans le panthéon, effectivement, des amis de Bachelard. Il faut demander aux gens de lire Bachelard un peu plus. François Rieussec, aménageur, patron de l'Union nationale des aménageurs privés. On va se revoir bientôt, d'ailleurs, pour une séquence un peu plus politique qu'on va suivre avec beaucoup de vigilance. Un grand merci à Thierry Paco. Voilà. Merci, Thierry, d'avoir pris le temps, depuis ta Touraine, de venir sur le plateau à distance avec la magie de la technologie et de nous faire profiter aussi de tes lumières. Voilà, relire toutes les œuvres. Et vous avez les URL d'ailleurs en cliquant sur le podcast qui vous renverront sur l'œuvre monumentale de Thierry Paco. Si vous avez envie de vous marrer, lisez son livre sur la sieste. C'est quoi ? C'est l'éloge de la sieste, hein, Thierry, c'est ça ?
L'art
de la sieste.
L'art de la sieste.
Écoutez, si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie de, c'est un morceau d'anthologie, lisez l'art de la sieste. Moi, ce que j'aime beaucoup dans sa façon de faire, c'est surtout l'éloge d'une certaine forme de lenteur dans lequel il dit, bon, écoutez, détendez-vous un peu et débranchez un peu vos appareils. Merci Thierry Paco, qu'on retrouve chaque mois dans une collection qu'on adore, qui s'appelle Urbanité. Voilà, où il fait même ses choix musicaux. Merci encore une fois, Thierry. Un grand merci avec le coproducteur thématique de cette collection pensée voulue par Ideal Group et Radio Imo. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je le lui ai dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose d'innovant. Vous avez le mot de conclusion, Pierre Vital, cofondateur, président d'Ideal Group.
D'abord, je suis ravi que tous les invités puissent mobiliser, et pour certains qui viennent de loin, donc merci pour la mobilisation aussi rapide. Merci pour l'échange où on voit que les sujets sont pas aboutis, il n'y a pas de solution miracle, mais collectivement on peut s'attacher à trouver des solutions. Donc on attend avec beaucoup d'impatience les prochains échanges, en particulier avec des élus du terrain qui pourront nous donner leur éclairage, leurs contraintes et les solutions qu'eux voient aussi pour produire plus de logements.
Exploration urbaine, premier numéro, c'est terminé. On va se retrouver le mois prochain, plutôt ce mois-ci, courant juin, sur un deuxième numéro, parce qu'on a beaucoup d'événements. Notamment, on va se retrouver au congrès de l'Association des maires d'Île-de-France. C'est le 28 et le 29 juin, porte de Versailles. Nous retrouverons Pierre Vital, où là, on va prendre la casquette un peu politique et un peu offensif. On se reverra d'ailleurs aussi le 22 juin avec François Rieussec et les organisations patrimoine et professionnel, où, sur lequel on va évoquer effectivement, après le résultat des législatives, le nouveau gouvernement, et on espère effectivement, en tout cas, avoir une orientation sur le logement un peu plus accrue. Exploration urbaine, c'est la collection que vous souhaitez. Elle sera publiée une fois par mois, on vous donnera les éléments. Normalement, c'est diffusé lundi à 18h. Likez, commentez, partagez. On sera toujours ici pour vous répondre avec beaucoup de bienveillance. Merci à toutes et à tous et au mois prochain.
Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de nos radios et sur toutes les plateformes de streaming.